France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, si je vous dis opéra et bouffe, pour peu que vous ayez un esprit à la Marco Ferreri, vous répondrez évidemment Rossini. Le nom du compositeur ravit en effet autant les mélomanes que les gastronomes. Les premiers y apprécient mille délices et des airs pétillants comme le champagne, servis avec générosité et un large sourire. Les seconds dévorent sans doute un plat qui, superposant viande rouge et foie gras, n'est pourtant plus vraiment dans l'air du temps. Mais si nous tournons le dos à ce Rossini-là, celui de la farce et de la table, nous pouvons rencontrer un compositeur plus complexe et une quarantaine d'opéras aux humeurs et inspirations infiniment variées. C'est ce que propose Chantal Cazot, mon invitée, dans son Rossini mode d'emploi. Parcourir, découvrir, s'étourdir d'une musique qui ne se limite pas au Barbier de Séville et à la Cenerentola, qui fit la conquête des scènes internationales au XIXe siècle et ne les a depuis jamais quittés. La Capella Coloniensis dirigée par Gabriele Ferro, c'était la fin de l'ouverture de Tancredi de Rossini. Bonjour Chantal Cazot.
Bonjour Philippe.
Vous êtes donc l'autrice de ce Rossini mode d'emploi qui vient de paraître tout juste le 14 octobre, il y a quelques jours, aux éditions Première Loge, et vous êtes rédactrice en chef de la revue L'Avant-Scène Opéra et déjà autrice d'un Verdi, d'un Puccini. Mode d'emploi, avant de parler de Rossini et de son œuvre, peut-être un mot ou quelques mots plutôt sur cette série mode d'emploi qui sont des guides, des outils, des Vademecum pour le mélomane, le format d'ailleurs appelle un format plutôt compact, un livre que l'on peut facilement mettre peut-être pas dans sa poche, mais
dans une grande poche
ou dans son sac avant éventuellement, ou d'aller au spectacle, ou d'écouter un disque, ou de regarder un DVD. Il y a un caractère pédagogique dans cette série.
Oui, absolument. C'est une série qui a l'ambition d'être, de proposer dans un format synthétique, comme vous l'avez dit, vraiment l'essentiel des informations pour découvrir un compositeur et replacer une œuvre de ce compositeur qu'on va aller entendre peut-être pour la première fois dans le contexte de sa vie, de son époque, du reste de son œuvre, comprendre un compositeur. Et c'est une série qui s'adresse à la fois aux mélomanes, mais même aux néophytes. Voilà, on essaye d'être suffisamment informatif à l'intérieur et c'est aussi très illustré, c'est un guide qui se veut vraiment texte et image en couleur.
Ouais. Alors, il y a effectivement pour ça cinq parties, une première partie consacrée justement à la biographie et des points de repère comme vous dites, et puis le gros on va dire du livre, ce sont les études de chacun des opéras. Mm-hmm. Bon, Rossini en a composé 40, c'est ça ?
Quasiment.
Voilà. Vous en avez choisi 18 entre ce temps crédit dont on vient d'entendre un extrait de l'ouverture en 1813 jusqu'à Guillaume Tell du 1829, c'est-à-dire vraiment très peu de temps.
Oui.
C'est une carrière quand même absolument phénoménale. Quand on regarde à la fin du livre, vous avez établi une chronologie des œuvres. Des années où il y a, je crois, quatre créations d'opéra.
C'est
vertigineux.
Tout à fait, c'est vertigineux. Le rythme s'est ralenti, comme chez tous les compositeurs de cette époque, de toute façon, avec le temps, avec le succès venant et l'âge venant aussi un petit peu. Mais c'est vraiment vertigineux. C'est une époque où les compositeurs devaient fournir beaucoup, beaucoup de partitions, ne serait-ce que pour vivre, tout simplement, pour gagner leur vie.
Ouais. Alors, deux, trois éléments biographiques. Naissance 1792 à Pesaro, donc ça en fait un contemporain de Schubert, Meyerbeer, ou Donizetti, milieu modeste. Vous avez choisi de commencer votre sélection à partir de Tancredi, c'est-à-dire que vous avez laissé de côté, mais vous les mentionnez quelque part, évidemment, les premières œuvres essentiellement consacrées au théâtre vénitien.
Oui, essentiellement à Venise. En effet, c'est par cinq ouvrages donnés à Venise qu'il a vraiment fait ses débuts. La plupart sont des ouvrages très courts, souvent en un acte.
Comiques en général.
Mais dans ces premières années sur lesquelles je n'ai pas consacré de chapitre intégral, c'est-à-dire 1810 à 1812, il y a quand même aussi déjà des opéras seria, des opéras de grandes proportions. Mais ce sont vraiment des œuvres de jeunesse. Je commence avec Tancredi en 1813, qui est, il faut quand même le dire, toujours une œuvre de jeunesse. Il a juste 21 ans. Donc
Oui, c'est ça, il faut relativiser. Même s'il s'arrêtera très tôt, puisqu'il arrête à 30,
aussi,
pose la plume
effet.
À 37 ans.
Ouais.
Pas définitivement, en tout cas, pour l'opéra.
Pour l'opéra, oui.
Ouais. Chantal Cazot, comment est-ce que vous expliquez que, j'ai dit en introduction, Rossini n'est pas l'auteur que du Bevat Civil et de Cenerentola, on pourra peut-être citer un ou deux autres titres, mais ça fait partie de ces compositeurs qui sont vraiment connus et reconnus par un, deux ou trois titres. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ?
D'abord par leur succès à l'époque, parce que le succès de ces titres-là est devenu phénoménal du vivant même de Rossini.
Ouais.
Ses autres ouvrages avaient aussi du succès, mais véritablement ces grands opéras bouffa comme le Barbier de Séville ou la Cenerentola n'ont pas quitté l'affiche dès le début. Donc c'est vraiment déjà un premier élément historique. Et puis il se trouve aussi que dans ces opéras seria, il y avait un langage vocal, une écriture vocale qui requérait certaines qualités de technique qui se sont plus ou moins perdus avec le temps, notamment au milieu du 19e siècle. Et autant on trouvait toujours des interprètes pour chanter encore le Rossini bouffa, avec quelques aménagements parfois quand même, autant le Rossini seria est devenu de plus en plus difficile à distribuer et ça s'est perdu petit à petit. Thank you.
L'étourdissant final du premier acte de l'italienne à Alger de Rossini, dans la version des Solisti Veneti, dirigée par Claudio Scimone. Chantal Cazot, ce qu'on vient d'entendre, c'est vraiment typique du style de Rossini, ces ensembles, ces fins d'actes qui sont totalement délirants, on a envie de dire. C'est vraiment une des signatures de Rossini, puisque dans votre livre, vous parlez essentiellement du style, de la musique.
Oui.
C'est vraiment
une
signature.
Absolument. C'est une signature de Rossini où on a tout. On a à la fois le derrière, commençons par parler de ça parce que c'est là qu'on ira peut-être le plus vite. On a derrière un orchestre d'une pétulance incroyable qui soutient tous les chanteurs. On a cet ensemble vocal qui confine à l'abstraction pure. Enfin, on est là dans le domaine de la musique abstraite.
Si oui, vous regardez, il y a même plus de texte.
Il y a même plus de texte. Ce sont des onomatopées. C'est crack boom u avant l'heure. C'est din boom crack. Chacun est parti dans sa folie et part en vrille véritablement dans sa folie. Tout ça étant composé au cordeau dans un ensemble, une façon de tisser les voix dans une polyphonie qui est vraiment extrêmement maîtrisée. Donc ça fait un effet à la fois savoureux, exubérant, exaltant. Oui, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on aime souvent Rossini, et c'est grâce à ça qu'il est aussi resté dans l'histoire et dans les affiches.
Mmh. Le côté irrésistible de cette musique
c'est sa vitalité.
Et puis ces grands crescendo, ces grandes fins qui montent.
Le crescendo rossinien, je vais redire le mot de vitalité, c'est vraiment l'équivalent en musique du documentaire sur la vie des plantes qui vous passe en accélérer la germination d'une petite graîne qui, en 30 secondes à l'écran, devient un vieux chêne. On a vraiment un petit motif mélodique qui va gonfler et prendre une ampleur considérable. Donc ça vous déborde, ça nous déborde intellectuellement, sensitivement, on se laisse emporter par la vague et c'est irrésistible.
Est-ce que pour cela, Rossini avait des modèles, Chantal Cazot? Parce que si j'ai bien lu votre texte, il a été formé à l'école vraiment des classiques, Mozart, Haydn.
Ah, absolument, comme la plupart des compositeurs italiens du temps, Donizetti aussi était vraiment formé à l'école des classiques et des classiques autrichiens et allemands. Et Rossini, en effet, a eu cette formation au Liceo de Bologne. Et le crescendo dont il est devenu l'image, le nom emblématique. Le crescendo n'est pas né avec Rossini, non. Il existait avant. Il existait dès la naissance de l'orchestre, dans la première moitié du 18e siècle, à Mannheim notamment. On appelait ça le rouleau de Mannheim, ce qui vous donne déjà une image de la puissance d'entraînement que peut provoquer cet effet d'écriture musicale sur le spectateur. Donc évidemment, à l'époque, c'était d'abord de petits orchestres et puis des petits crescendi. Donc ça montait légèrement, mais ça n'était pas travaillé sur le plan formel comme Rossini l'a fait pour en faire des pages orchestrales entières.
Oh, you may have been there.
Cecilia Gazdia et Solisti Venetti, dirigé par Claudio Scimone, et c'était un extrait de Zelmira de Rossini, Chantal Cazzo, dans cette sélection de 18 opéras que vous avez opérés, donc entre Tancrède et Guillaume Tell. Il faut préciser à nos auditeurs que pour chacun de ces opéras, il y a la possibilité d'écouter donc un extrait que vous avez choisi, je suppose.
Oui, absolument, parce que c'est un livre connecté, comme on dit. Donc il y a une application qui est gratuite, téléchargeable sur tous les supports d'application, qui s'appelle AS Opéra. Et avec cette application, il suffit de flasher les pages qui mentionnent le petit logo, le petit pictogramme qui indique un exemple musical, et on entend un court extrait de l'œuvre considérée. Donc on a 18 extraits audio.
Et sur quels critères avez-vous choisi justement ces extraits ?
J'ai essayé de sur l'ensemble des 18 extraits, j'ai essayé d'avoir tantôt un grand interprète, tantôt un air clé de l'opéra cité, tantôt un extrait musical représentatif du langage de Rossini. Donc il y a à la fois des ensembles, des airs, du symphonique.
Voilà. Alors là, l'extrait qu'on vient d'entendre, extrait de Zelmira, c'est un Rossini évidemment tout autre, beaucoup plus dans l'élégie. Quelles sont, Chantal Cazzo, les difficultés pour un chanteur, une chanteuse aujourd'hui, pour aborder cette musique de Rossini? On a parlé d'une, vous nous avez évoqué, disparition de certaines voix. On a parlé ensuite d'une renaissance Rossini, oui, à partir des années, quoi, 1960,
c'est 1960, ça, oui, pour le véritable éclatement de cette renaissance. Il y avait eu des prémices, mais c'est vraiment dans les années 60 que ça a éclaté.
Alors, quel est le problème, justement, pour chanter Rossini? Qu'est-ce qu'il faut et de quoi a-t-on manqué pendant certaines années?
On a beaucoup manqué de virtuosité et de vélocité. C'est-à-dire que Rossini est un compositeur qui se situe à une période d'articulation, vraiment, de l'histoire du langage vocal. Et les années 1810 sont des années où les chanteurs qui chantent, les grands chanteurs des années 1810, sont des chanteurs qui sont tous héritiers de l'école baroque et de la virtuosité du bel canto baroque. Donc ce sont des gens qui sont capables de chanter les roulades de Handel, de Vivaldi, de Haas, opéra baroque chargé en traits, en trilles, en tirade de double ou de triple croche, tout ça est présent chez Rossini. Or, le temps a passé, et évidemment, les grands interprètes qui ont fait leur carrière italienne, ensuite principalement avec Verdi, Puccini et consorts, ont perdu peu à peu cette école, tout simplement pédagogiquement, parce qu'on ne l'enseignait plus ou beaucoup moins bien.
Parce qu'on demandait des voix peut-être plus amples.
Oui,
plus...
les voix devaient être plus amples pour passer de plus grands orchestres, puisqu'évidemment, avec le cours du temps dans le 19e siècle, les orchestres ont cru. Les compositeurs eux-mêmes se sont limités dans l'exigence de cette virtuosité. Verdi, au début, avait des demandes encore des traits un peu virtuoses, mais ensuite, ce n'est plus la virtuosité qui va être la difficulté pour chanter Verdi. Donc, tout ça n'a fait que croître au cours du 19e siècle et au 20e. Donc, en effet, c'est quelque chose qui s'est perdu à la fois chez l'interprète et dans la partition que cet interprète chantait. Et donc, quand il fallait chanter du Rossini, les quelques rares voix qui parvenaient à le faire encore étaient généralement les voix pour lesquelles les compositeurs avaient continué à composer du virtuose, c'est-à-dire les sopranos légers, par exemple. On avait continué à composer des Lacmé, des opéras français avec des rôles de soprano brillants. Donc, les Lacmé pouvaient chanter Rosina, sauf que Rosina n'était pas du tout écrite pour un soprano léger, mais tant pis.
Thank you.
L'Ambrosian Opera Chorus, le Royal Philharmonic Orchestra, dirigé par Lamberto Gardelli. C'était un extrait de Guillaume Tell de Rossini. Chantal Cazou, nous avons quitté l'Italie pour la France. Nous sommes à Paris en 1829. C'est donc le dernier opéra de Rossini. Donc là, on change totalement d'univers, d'horizon, d'environnement. C'est déjà le grand opéra.
C'est le grand opéra, c'est le romantisme aussi. Rossini avait déjà été déjà rentré dans le romantisme dans certains ouvrages italiens, mais là vraiment ça explose. Le romantisme du sujet, le romantisme du rapport à la nature qu'on voit dans les décors, dans les atmosphères, le romantisme de l'écriture symphonique, de l'utilisation des instruments. D'une nouvelle vocalité aussi, et des dimensions, en effet, qui sont celles du grand opéra français, et de la dimension politique aussi, qui est celle du grand opéra.
Mmh, oui, exactement. Et est-ce que, puisque donc, Rossini s'installe à Paris en 1800...
Alors, je sais plus. Une première fois en 1824. 24, alors, il est venu en 23, il s'est installé ensuite en 24, pour un court séjour, en fait, et ensuite il va revenir en 1855 jusqu'à sa mort.
C'est ça. Et quand il arrive en 24, il a assez vite un poste officiel.
Ah oui, tout à fait. Il devient compositeur officiel de Charles X. Donc, il est vraiment... Rossini était un fin stratège. Il s'est toujours débrouillé pour être souvent du côté du pouvoir. Et donc, ce poste de compositeur officiel, oui, il l'a suivi pendant toute sa carrière parisienne.
Chantal Cazou, quel aurait été l'héritage de Rossini ? Est-ce qu'il y a des compositeurs qui ont été influencés par son style ?
Par son style, je ne sais pas. Par son écriture, certainement. C'est-à-dire qu'on sent d'abord chez Donizetti, qui est quasiment son contemporain, oui, mais dont la carrière va déborder au-delà de l'arrêt de carrière lyrique de Rossini. Chez Donizetti, c'est évident. Il y a vraiment quelque chose dans le langage, dans l'écriture vocale, dans la forme et même dans la dramaturgie qui va subsister. Chez le jeune Verdi aussi, les compositeurs italiens seront tributaires en fait de la façon dont Rossini a su rentrer dans le mélodrame italien. Ses premiers ouvrages n'étaient pas du tout des mélodrames romantiques. Il a même composé pour Castrat, donc c'était vraiment au début un opéra tourné vers le XVIIIe siècle. Mais il a su prendre le virage, et notamment grâce à l'opéra de Naples, pour lequel il a beaucoup composé d'opéra seria. Là, il a donné une nouvelle présence à la voix féminine et une nouvelle présence à la voix de ténor. Et c'est sans doute à travers la façon dont les rôles de ténor se sont développés dans ses ouvrages jusqu'au rôle d'Arnold dans Guillaume Tell qu'on peut dire que Rossini a influencé la suite de l'opéra, pas qu'italien d'ailleurs.
Une dernière question, Chantal Cazou, à propos de Rossini, de son répertoire, ses opéras. On a cité quelques titres fameux, mais sur les 18 que vous avez sélectionnés, il y en a beaucoup qui sont très peu connu, peu voire pas joué en France. Quels sont vos coups de cœur, les opéras méconnus de Rossini qui mériteraient d'être découverts par un public amateur qui ne connaît pas bien Rossini?
Méconnu, je ne sais pas. Je vais citer par exemple Armida, qui n'est pas complètement méconnu,
mais
c'est vrai que ce n'est pas le titre le plus populaire, par exemple. Armida, c'est un joyau qui est en plus une atmosphère fantastique, qui est unique dans le catalogue de Rossini. Il faut un très très grand personnage féminin, et puis beaucoup beaucoup de ténors à côté pour tenir le plateau. C'est une partition assez fabuleuse. Voilà, c'est celle qui me viendrait là en premier. Mais on termine sur Guillaume Tell, qui est pour moi un coup de cœur assez paradoxal, parce que c'est un opéra français, mais pour moi, il y a un très, très grand Rossini, là.
Et toute dernière question, les chanteurs aujourd'hui, est-ce que les chanteurs rossiniens d'aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment à disposition de quoi faire des belles distributions pour les opéras de Rossini aujourd'hui?
Oui, absolument.
C'est une période faste pour Rossini.
C'est la merveille que nous a légué la Rossini Renaissance et notamment le Festival de Pesaro qui a su découvrir énormément de jeunes chanteurs. Aujourd'hui, on croule, je dirais, sous les grands chanteurs rossiniens et notamment les grands ténors. Dans ma sélection de grands chanteurs que j'ai choisi de mettre en avant dans l'ouvrage, j'ai vraiment eu du mal.
Très bien, merci beaucoup Chantal Cazou. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Rossini, mode d'emploi, qui vient tout juste de paraître aux éditions Première Loge. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, les techniques Valérie Lavalard, attachée de production Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, excellente journée et excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.